Désemparés et expulsés du Mali et redéployés malgré l'opposition du peuple, Barkhane cherche à changer de stratégie et de mettre en œuvre un plan B au Niger. Les médias mainstream évoquent donc une nouvelle stratégie qui s'agit du fait que les opérations de lutte contre le djihadisme se font désormais plus discrètement qu'avant, en laissant l'armée nigérienne prendre les commandes. Il semblerait que la force Barkhane ne souhaite absolument pas revivre le scénario de son expulsion embarrassante du Mali et décide de jouer un nouveau rôle au Niger. Le général Hervé Pierre, chargé de l'un des postes de commandement dans le nord du Niger, explique que la préparation aux opérations se fait avec les soldats nigériens, avec l'état-major qui décide de la nature et de la forme que vont prendre les opérations. Et lorsqu'on conduit les opérations, c'est un général nigérien qui commande les unités nigériennes sur le théâtre des opérations. Cela est le signe concret de l'invasion de la relation partenariale. Mais après avoir fait échec au Mali, cette nouvelle réorganisation au Niger est-elle réellement efficace? Bien sûr que non. Même si Barkhane et Sy tentent de redorer leur blason en faisant croire que désormais c'est les forces armées nigériennes qui seraient aux commandes des opérations, il est bel et bien clair pour le peuple nigérien qu'il s'agit d'un nouveau scénario afin de détourner les attentions des réelles intentions de cette force qu'il s'agit d'installer de nouvelles bases dans cette région, de piller les ressources naturelles et de semer le chaos dans le pays. En effet, plus personne ne croit aux bonnes volontés et au bon foi de l'actuel sultan en Afrique. Le Niger, tout comme le Mali et le Burkina, ayant en dépit de la présence de la grande base US à Agadez, a jusqu'ici fait échec au plan néocolonialiste. D'ailleurs, les protestations de Nigériens qui, dans la foulée de la résistance des Burkinabés dans le village de Kaya, à l'invasion de Barkhane, ont décidé de barrer la route aux forces d'occupation portent exactement sur l'opposition à la présence des bases occidentales à travers leur pays. Il y a effectivement une prise de conscience collective à travers tout le Sahel qui s'étend au Burkina, au Niger et au Mali et qui fait capoter les plans B des forces occupantes. Que ce soit au Niger ou dans les autres pays du Sahel, les populations restent soudées et savent qu'elles n'ont pas besoin d'avoir un tuteur comme la France, mais elles ont besoin d'avoir un pays souverain, intègre et indépendant. Depuis quelques années, le Nigeria a mis sur pied une politique visant à faire du secteur minier un levier important de l'économie afin de réduire sa dépendance vis-à-vis du pétrole. Au Nigeria, le gouvernement a récemment entamé la révision du code minier actuellement en vigueur, le Nigerian Minerals and Mining Act 2007. C'est ça qu'a déclaré le vice-président du pays, Yemi Osinbajo, à l'ouverture de la 5e semaine annuelle de l'exploitation minière qui s'est tenue en ligne les 16 et 17 novembre 2021. Une décision qui fait craindre les milieux occidentaux puisque l'axe US-OTAN ne veut absolument pas revivre le remake du scénario congolais lors duquel le président Kabila a coupé les ponts avec les multinationales qui, au nom des coopérations minières, ne faisaient qu'exploiter les mines et les ressources naturelles du pays. Les tentatives de déstabilisation se sont donc multipliées durant ces dernières années et les livraisons empoisonnées d'armes US au Nigeria n'ont abouti qu'à vider les poches de l'État nigérien. Dans leur dernière tentative de déstabilisation, l'axe occidental vise le renseignement du pays. Près de 900 détenus se sont évadés d'une prison d'Abuja, la capitale du Nigeria, dont au moins 443 sont encore disparus, ont annoncé ce mercredi 6 juillet les autorités qui ont attribué l'attaque aux rebelles extrémistes islamiques. Au même moment, des hommes armés ont lancé une attaque mortelle contre un convoi de sécurité préparant la prochaine visite du président nigérian, Muhammadu Buhari, dans l'état de Katsina pour l'Aïd el-Kébir. C'est avec une colère froide que le président Muhammadu Buhari a constaté les dégâts à l'intérieur de la prison de Kuje, cela juste avant de prendre son avion pour la conférence internationale à laquelle il doit assister ce jeudi 7 juillet à Dakar. En effet, après cette fuite des prisonniers, des hommes armés ont attaqué mardi soir un convoi transportant des membres de la sécurité du président Buhari avant sa visite de son état natal du Nord-Ouest indiquait la présidence. Le président Bouhari n'était pas dans le convoi quand des assaillants ont ouvert le feu sur plusieurs véhicules, blessant 2 personnes. Cette attaque est un énième rappel de l'insécurité quasi généralisée dans le pays le plus peuplé d'Afrique. En effet, un quasi-monopole américain dans la sécurité nigériane qui n'empêche pourtant pas la recrudescence des attentats terroristes, des enlèvements, du trafic massif de drogue et de la criminalité en tout genre et maintenant des attaques contre le gouvernement fédéral jusqu'à viser le président. Les États-Unis ont tout fait pour déloger le gouvernement légitime en place en tentant de lancer une révolution de couleur, mais ont également mis en place des bases terroristes de Daesh dans le nord, dans un contexte d'offensive de panique de la part d'Occidentaux sur le continent africain, avec des assassinats ciblés de chefs d'État, d'offensives terroristes ou des tentatives de coup d'État. Les pays du continent se tiennent sur leur garde. Le danger est bel et bien à leur porte, mais les mesures prises ne plaisent évidemment pas à l'Occident, car elles contrent ces tentatives offensives. Il y a quelques semaines, le vice-président de la Guinée équatoriale, Teodoro Guément Obiang-Mong, a menacé sur Twitter de renvoyer l'ambassadeur français de son pays. Luc Michel décrypte le dossier monté contre Malabo, dit des biens mal acquis. Va-t-on vers l'expulsion de l'ambassadeur de France à Malabo?
C'est l'héritière de la Yougoslavie de Tito, en état aujourd'hui disparu. La Yougoslavie, la dernière Yougoslavie, celle du président Milosevic, elle a été détruite en octobre 2000 par la première des révolutions de couleur américaine. Et depuis, la Serbie, c'est un petit État qui a perdu toutes ses provinces et qui est enclavé. Mais c'est un État qui reste puissant, proche de la Russie et fort industriellement. Au début des années 60, la Yougoslavie était avec Nasser, l'Égyptien, le chef de file des États non alignés, et il a puissamment aidé les États africains à gagner leur indépendance. C'est donc dans cette optique que le vice-président de Guinée équatoriale, Teodoro Mangie Obiang-Nema, qui est probablement l'un des successeurs putatifs du président Obiang-Nema Bassongo, est en visite diplomatique. C'est lui qui pilote les relations géopolitiques et l'émergence de son pays. Pourquoi est-il en Yougoslavie? Parce que la Yougoslavie, justement, c'est l'héritière de Tito. Et parce que la Guinée équatoriale, c'est un État qui veut développer un modèle d'émergence. Actuellement, c'est un État pétro-gazier. C'est ce qu'on appelle un Eldorado pétro-gazier. Mais Malabo sait que ça n'aura qu'un temps. Elle vise donc à ce que la Guinée équatoriale émerge avant 2030 comme un État industriel autour d'une série de piliers. Premier pilier, l'industrie pétro-gazière, évidemment. Second pilier, découlant du premier, l'industrie chimique. Troisième pilier, l'exploitation forestière. Quatrième pilier, le tourisme industriel tel qu'il est mené à Cuba, par exemple. Et enfin, dernier pilier, la transformation de la capitale de Malabo de Sipopo en un hub financier, c'est-à-dire le Doha du golfe de Guinée, comme Doha est un hub financier dans le golfe Persique. C'est dans ce cadre que la Guinée équatoriale est partie à Belgrade pour développer des relations économiques et industrielles. Belgrade, c'est un État qui est encore proche de la Russie, qui a refusé notamment d'appliquer les sanctions contre la Russie. Malabo aussi, c'est un État proche de la Russie. Elle a ouvert les ports de Guinée équatoriale en 2015 à la marine de guerre russe et elle est liée à la Russie, mais aussi à l'Iran et à l'Algérie, dans l'Union des États producteurs de gaz. C'est à Malabo que s'est tenu en juillet 2019 le premier sommet des États producteurs de gaz, le deuxième s'étant tenu en présence de Malabo à Doha pour soutenir la Russie dans le dossier ukrainien. La Serbie, héritière de la Yougoslavie, elle a encore une puissante industrie automobile, notamment les fameuses automobiles Zastava. Elle a une industrie militaire qui exporte beaucoup en Afrique. Elle a une industrie pétrolière, etc. Elle a donc beaucoup apporté à la Guinée équatoriale. Voilà donc ce que le président fait là-bas. Cette mission, les Français ont tenté de le saboter, on a choisi que le vice-président se trouvait à Belgrade pour faire perdre à la Guinée équatoriale un procès en restitution. La Guinée équatoriale tentant de recouvrer la propriété de l'immeuble de l'avenue Poche, confisqué en 2018 dans le cadre de la procédure dite des biens mal acquis par la Cour d'appel de Paris. Et ce n'est pas un hasard si c'est au moment où le vice-président se trouve en Guinée équatoriale qu'on a développé une campagne sur le thème des biens mal acquis contre la Guinée équatoriale et contre le vice-président. Évidemment, la Guinée équatoriale, elle se détourne de la France. Elle a précisé que si l'immeuble était confisqué, l'ambassadeur expulsé des locaux de l'avenue Poche, l'ambassadeur français serait expulsé de Malabo. Et cherche donc à développer des relations économiques avec le bloc de l'Est. C'est dans ce sens que se déroule cette mission qui est un immense succès à Belgrade. À Belgrade, on n'a pas oublié l'amitié avec la
Le Kenya a ouvert lundi le centre financier international de Nairobi afin d'aider à stimuler l'afflux de capitaux étrangers pour financer le programme de développement du pays. Dans un discours lu en son nom par Joseph Kinyua, chef de la fonction publique, le président Uhuru Kenyatta indique que le centre aura pour ambition d'améliorer l'environnement des affaires afin de permettre aux entreprises de lever des fonds pour des projets, de soutenir l'innovation et d'exploiter de nouveaux investissements en Afrique. Le Centre financier international de Nairobi a été conçu comme un environnement commercial efficace et prévisible pour donner plus de confiance aux grands bassins de capitaux mondiaux qui ont observé nos progrès mais n'ont pas encore pris la décision d'investir, a noté M. Kinyua, ajoutant que le centre devrait également aider le secteur financier du Kenya à attirer suffisamment de capitaux et d'investissements pour construire une économie diversifiée, innovante et durable. L'Ouganda a adopté le Kiswahili comme langue officielle, a annoncé mardi au responsable du gouvernement, Chris Baryumunsi, ministre des Technologies de l'Information et de la Communication et de l'Orientation nationale, a dit aux journalistes que le cabinet a approuvé lundi la mise en œuvre d'une directive du 21e sommet de la Communauté de l'Afrique de l'Est visant à adopter le Kiswahili comme langue officielle de la communauté. L'Ouganda a désormais deux langues officielles, l'anglais et le Kiswahili. La CAE regroupe 7 pays membres, à savoir le Burundi, la République démocratique du Congo, le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda, le Soudan du Sud et la Tanzanie. Selon M. Baryumunsi, le cabinet a également ordonné que l'enseignement du Kiswahili dans les écoles primaires et secondaires devienne obligatoire et fasse l'objet d'examens d'aptitude. Premier espace de cette ampleur en Afrique centrale, Playas de Yaoundé représente un investissement de 38,1 millions d'euros inauguré par Ferdinand Gogo, secrétaire général de la présidence. Il abrite également le premier hypermarché Carrefour, partenaire du distributeur franco-nippon du pays. Avec beaucoup de retard par rapport à l'objectif initial, fixé à la fin du 21, mais en grande pompe, CFAO, Consumer Retail, ouvre les portes du centre commercial Place Yaoundé, qu'il a conçu et qu'il opère ce 6 juillet. La veille, un parterre de ministres et de dirigeants, dont Ferdinand Gogo, secrétaire général de la présidence, Luc Magloire, Barga Tangana, ministre camerounais du commerce, et Jean-Christophe Brindo, directeur général de la division CFAO Consumer Retail, ont présidé à l'inauguration de la structure dans le quartier de Warda à Yaoundé. L'ancien président du Burkina Faso, Blaise Compaoré, est attendu dans les prochains jours à Ouagadougou après son exil en Côte d'Ivoire depuis son renversement en 2014. Jugé en son absence lors du procès des assassins de Thomas Sankara, il doit notamment rencontrer le nouvel homme fort, le lieutenant-colonel Paul-Henri Soundaogo Damiba. Selon une source proche de l'ex-président, exilé à Abidjan depuis sa chute en octobre 2014, Blaise Compaoré sera bien au Burkina Faso dans les prochains jours. C'est déjà acté, on attend que le jour précis de ce voyage, confie cette source à RFI. Une autre source à Ouagadougou confirme les contacts, c'est le vœu du président Paul-Henri Damiba de le rencontrer dans le cadre de la réconciliation nationale, souligne cette source, mais elle précise qu'aucune formation ferme n'a été encore donnée pour le moment. Ni le format, ni la date, ni la durée de cette prochaine visite n'ont été pour l'heure définies.